Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être là en ce jeudi soir avec nous pour débriefer l'actu. Encore pendant une demi-heure, nous avons Frédéric Simotel, Yves Maître et Didier Sens. Et après avoir parlé longuement d'IA, et avant d'y revenir avec, je vous le rappelle, l'interview dans quelques minutes de Timothée Lacroix, le cofondateur de Mistral AI, qui a répondu à mes questions. Avant tout cela, parlons de produits high-tech. La télévision qui, on le sait, est dans une situation compliquée. Alors là, il va y avoir la Coupe du Monde qui va arriver, donc forcément les constructeurs de télé se réjouissent parce que c'est toujours le moment où on renouvelle sa télé, on s'offre une nouvelle télé, etc., etc. Mais malgré tout, ce secteur-là va pas bien et on en avait parlé il y a quelques semaines de cela. Sony a annoncé vouloir arrêter la fabrication de ses propres télévisions. Vous vous rendez compte, Sony, quand même, qui est
une marque... Ça fait quand même un bout de temps que Sony ne fabrique plus les dalles et ne se contente que de faire de l'électronique.
Oui, mais ils fabriquent... Enfin, c'était leur propre télévision, si tu veux. C'était une télé Sony que t'as acheté. C'est vrai que c'était plus leur dalle, mais malgré tout, voilà, t'as acheté une télé Sony.
Et dedans, il y avait beaucoup de Google aussi. C'est un problème aussi.
Bon, ben en tout cas, maintenant, ils ont décidé d'arrêter. Première info. Enfin, ils arrêtent. C'est-à-dire qu'ils ont monté une joint venture avec TCL. Et c'est TCL qui va, à partir de l'année prochaine, fabriquer les télévisions, même les haut de gamme de Sony. Parce que souvent, pour ces marques-là, le bas de gamme est fait par, on va dire, une marque B. Et le haut de gamme était conservé par la marque originelle. Là, non. Sony, en fait, se désolidarise et TCL fabriqua les télés. Première chose. Deuxième chose. Et là, c'est pas confirmé. Mais il y a une rumeur qui se fait de plus en plus insistante, comme quoi LG, le géant coréen de la télé aussi, eh bien, arrêterait, non pas de fabriquer les dalles, parce que c'est leur business, mais ne commercialiserait plus de télé, ne fabriquerait plus de télé. Comment on va faire au CES de Las Vegas ? Franchement, alors, on se retrouvait toujours des stands magnifiques d'LG avec de superbes écrans.
Alors, t'as oublié de parler de Panasonic aussi, qui a vendu sa division à un groupe chinois.
C'est vrai.
Alors, LG, bon, c'est un fabricant de téléviseurs qui est quand même moins connu que Samsung, moins connu que Sony, que Panasonic.
Mais qui avait fait son trou dans le haut de gamme avec l'OLED.
Et qui est super revenu sur le business avec l'OLED dans les années 2017-2018. Et qui a construit donc une série de téléviseurs plutôt de bonne qualité, même si bon les testeurs disaient que en termes d'électronique ils étaient un peu moins bons que les concurrents, y compris Philips qui lui aussi.
Et puis ils ont leur propre OS aussi, c'est
qui est WebOS, qui est un ancien OS de l'époque
d'un truc comme ça là, je sais plus comment ça s'appelait. C'était Palm Pilot, non? C'était pas Palm Pilot WebOS?
Enfin bon, on s'égare. Pion ou Palm? C'était un des deux, peut-être Palm, Et alors, mais qu'est-ce que ça nous dit cette histoire-là ? Ça nous dit que le centre de gravité de la télévision est en train de changer géographiquement. Avant, c'était le Japon, c'était Sony, Panasonic,
Toshiba
et toutes ces marques-là qu'on a connues. Après, ça a été un peu la Corée, Samsung, LG, etc. Maintenant, c'est la Chine. Il n'y a plus d'industrie du téléviseur classique qu'on a connu pendant des années dans au Japon et en Corée. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a un problème technologique. C'est-à-dire que les Japonais étaient très forts sur sur les premiers écrans plats, qui étaient des LED et des plasmas, rappelez-vous de Pioneer. Les Coréens, après, sont arrivés, LG est arrivé avec l'OLED. Et maintenant, ce qui marche bien, c'est les micro-LED. Et les micro-LED, c'est une technologie que maîtrisent parfaitement les industriels chinois et qui a l'avantage d'être plus économe et plus économique. Et donc, c'est normal que ce soit ces usines-là qui produisent finalement les dalles qui vont permettre d'avoir une meilleure définition en grande taille par rapport à ce qu'on peut obtenir aujourd'hui en OLED. Donc voilà, il y a ce changement technique, stratégique, qui fait que le métier change un peu. Et puis il y a aussi le dernier point, c'est que s'il y a un changement d'usage. Le téléviseur qui trône au milieu du salon est en voie de disparition. Il faut bien se l'avouer un jour ou l'autre. Ça concerne des générations.
Il y a eu un retour de flamme, j'ai envie de dire, avec le Covid. On s'est tous retrouvés confinés. Et la télé est redevenue l'écran principal. Ouais.
Tes enfants, ils regardent comment leurs séries?
Tu sais quoi, alors, mes enfants, et elles sont grandes, hein, regardent leur téléphone et en même temps, elles regardent la télé. C'est dingue.
Moi, c'est l'iPad, le téléviseur portable, le PC portable, le MacBook, etc. Mais jamais ils regardent un film à la télé. Il faut leur demander de venir regarder avec nous un film pour qu'ils
acceptent. Il y a quelques programmes fédérateurs, tu vois. Par exemple, The Voice.
Oui, c'est ça.
Des trucs comme ça.
C'est des trucs
qui rassemblent, en fait, la famille.
Oui.
Ou le foot. Là, typiquement, la Coupe du Monde.
Vrai.
Le foot, tu vas le regarder en famille ou avec des amis parce que c'est un moment convivial. Ou au bar. Mais tu le regardes sur une télé au bar.
Attends, je vais juste te dire, là, on est en train de parler en tant qu'occidental. On est 8 milliards 5 sur cette planète. Des gens comme nous qui ont la télé dans le salon, etc., et qui disent, j'achète plus de télé parce que j'ai mon smartphone personnel. Il n'y en a pas beaucoup sur les 8 milliards. Il y en a peut-être 1 milliard, 2 milliards. Mais la majorité des télés qui se vendent aujourd'hui, c'est pas chez nous, c'est dans l'Asie du Sud-Est, c'est en Chine qui est le plus gros marché mondial.
Okay,
donc évidemment.
Et la télé est toujours bankable là-bas.
Mais oui, bien sûr, elle est bankable. J'étais en Afrique la semaine dernière, j'étais à Abidjan. Ben oui, il y a encore des marchands de télé, il y en a dans tous les magasins. Évidemment, parce que avoir un smartphone à 200-300 euros, puis s'il y a 6 enfants, plus les 2 parents, ça fait 8 smartphones, ça n'existe pas.
Non,
c'est pas
possible.
Juste pas. Ouais. Okay, c'est juste pas possible. Donc la télé a encore un rôle central. Donc tout ce business-là, les Chinois, ils sont particulièrement forts parce qu'ils ont des réseaux de distribution. D'abord, ils ont le plus gros marché. Donc forcément, quand tu as le plus gros marché, bah, tes prix baissent parce que tu as tes volumes. Donc tu attires. Puis après, ils sont en Asie du Sud-Est, ils sont juste pas mauvais du tout. Okay, l'Indonésie, c'est 200 millions de personnes. Puis après, en Afrique, puis après, en Amérique du Sud. Et évidemment, ils ont de plus en plus de volume, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une certaine logique et que tu faisais remarquer. Et donc tu as la valeur ajoutée qui reste au Japon et en Corée, hein, c'est ces fameuses dalles. Et puis après, il y a le métier de crève la dalle, j'allais dire. Et ben ça, c'est les Chinois qui l'ont repris parce que ils ont le volume. Et c'est assez inéluctable.
Le Japon fait encore des dalles. Ils font des dalles au Japon.
Oui, ils font des dalles. Sony fait des dalles.
D'accord.
Ils font encore des dalles.
Il y a une usine Sony Toshiba qui était une joint venture à une époque. Je crois qu'elle marche encore.
Ils font des dalles moins pour la télé, mais pour les voitures ou des choses comme ça.
Ou pour les smartphones.
Mais moi, je me souviens de George Guo qui est toujours d'ailleurs. Enfin, il est plus, mais qui est toujours un acteur influent en Chine, qui était donc le patron un des grands patrons de TCL. Il reportait directement à Monsieur Li. Et un jour, on va au restaurant à Shenzhen, c'était il y a une quinzaine d'années, il me dit, Yves, on va se mettre à faire des dalles pour concurrencer LG. J'avais regardé, j'ai dit, mais Georges, vous êtes complètement... Vous êtes où? Enfin, vous avez fumé la moquette. Enfin, ça n'existe pas. Vous allez vous battre contre les Coréens. Mais enfin,
et surtout avec des procédés de fabrication pas complexes.
Eh bien, 15 ans après, ou
12
ans après, ils y sont arrivés.
Ouais.
Donc, il y a aussi ce courage-là. On en parlait tout à l'heure pour Mistral. Il y a ce courage-là de dire rien n'est impossible. On y va, on se bat.
Moi, ce que je trouve très intéressant.
Quand t'as le plus grand marché du monde, t'as quand même un avantage.
Ce que je trouve intéressant et un peu triste aussi, c'est que finalement, on voit que la puissance technologique change de continent, finalement.
Ouais,
c'était le Japon quand on était enfant, ado, jeune adulte.
Ça a même été l'Allemagne, les grandes ligues et tout ça.
C'est ça. Mais c'est vrai que ce qui nous faisait rêver, c'était la technologie japonaise. Les télés, les Walkman, les lecteurs de CD, les
magnétoscopes.
Tous ces trucs-là, c'était japonais. Et c'était les Japonais qui tenaient le marché, quoi. Après, ça a été la Corée du Sud avec Samsung et LG. Et là maintenant, on revit la même chose, et c'est la Chine qui prend le lead. C'est assez étonnant, je trouve.
C'est-à-dire, ce marché de la télé, c'est un marché ultra compétitif et développé. Enfin, et la techno, ça coûte hyper cher. Donc là, aujourd'hui, on se concentre sur autre chose. Et les Chinois, comme tu disais, moi, pour moi, les Chinois, il y a deux choses. La première, évidemment, un marché domestique gigantesque. Et puis ils sont. Je lisais une étude par rapport à ce que tu disais. Parfois ils ont 2-3 télés par foyer. Enfin voilà, ils sont la télé reste un moment important. Donc marché gigantesque, on baisse les coûts. Et puis deuxième chose, c'est que les Chinois, peu à peu, à force de copier, à un moment ils sont devenus plus forts. Et puis ils commencent à avoir des technologies aussi de plutôt haut de gamme. Et donc maintenant aujourd'hui, les autres peuvent pas lutter. Et juste une chose par rapport à ce que disait Didier. Moi je pense quand même. Et je vois ça derrière François, il y a le home hub là. Enfin, il y a un écran. Voilà, on en a fait une petite illustration avec la télé. Moi, je crois beaucoup. Ça fait 2-3 ans que j'y crois en allant au CES à chaque fois. Moi, je crois toujours à la télé home hub. C'est la télé va être l'endroit. Enfin, va être l'endroit où on va lui parler. Ça sera notre agenda.
Non, moi, j'y crois pas du tout.
Ah ben, moi, je peux te dire, j'ai vu des trucs chez Samsung. Et je me suis dit, mais c'est ça. Pour moi, ils ont compris.
Juste une chose sur laquelle il faut être vigilant. C'est l'impact que ça va avoir sur les distributeurs, des gens comme Boulanger ou Fnac Darty. Parce que aujourd'hui, quand il y a cinq compétiteurs, on va dire TCL, Skyworth, LG, Samsung et qui d'autre, ok, chacun loue la place, chacun achète sa place, ok, dans ces magasins-là. Donc les magasins font de l'argent. D'une part par l'achat, mais avec des marges relativement faibles, hein, ok. Et d'autre part parce qu'ils louent la place à ces constructeurs. Et quand on loue un espace de télé et qu'on veut montrer qu'on a des grandes télés, on est obligé de louer beaucoup d'espace. C'est pas comme quand on vend un stylo Bic. Ok, quand on vend un stylo Bic, on loue pas beaucoup de place. Quand on vend des télés, il en faut 5 ou 6 dans le magasin. Il en faut une très grande, une moyenne et puis 3 petites. On va dire ça comme ça. Donc ça fait quand même de la place. Quand vous retirez toute cette place-là et que vous retirez le nombre de concurrents, bah le bargaining power, comme on dit, en disant bah combien tu vas me payer la place, bah je te la paye pas, je suis tout seul. Où tu vas me la donner la place. Et tout d'un coup, le revenu et l'importance pour les canaux de distribution, par exemple Fnac Darty, Boulanger ou d'autres Best Buy aux États-Unis, bah, tout d'un coup, c'est un vrai problème pour eux. Alors, on n'y pense pas forcément, mais c'est un vrai problème pour les canaux de distribution. Alors, qui vont se retrouver avec des forces limitées et un espace qui va être pas forcément utilisé.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé, je suis tout à fait d'accord avec toi, qui est un peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi la structure économique de la Chine. C'est-à-dire que les fabricants de coréens, japonais, etc., sont plus ou moins obligés, s'ils veulent attaquer le marché chinois, de faire alliance avec des entrepreneurs chinois. On le sait, hein, c'est pas nouveau, ça marche dans toutes les industries, etc. Ben, il arrive peut-être qu'au bout d'un moment, finalement, pour s'assurer d'avoir vraiment la majorité du marché très prometteur de la Chine, ben, ils préfèrent finalement déléguer tout à leur associé local que de se prendre le chou à essayer de trouver des canaux différents pour remplir la même office.
Et puis, il ne faut pas oublier que, c'est, je ne sais plus lequel de vous l'a dit, mais LG, bon, il continue à faire les dalles. Et puis LG, il y a tout le marché aussi maintenant des écrans dans les voitures.
Oui, absolument, gros business.
Des écrans dans les voitures, gros business, des écrans professionnels aussi.
Bah, sur les smartphones aussi.
Les écrans professionnels, les écrans... Bah, voilà, il y a tout un ensemble des écrans dans les hôpitaux, tout ça. Enfin, ça fait
et encore une fois, le réseau de distribution, parce que c'est important, mais en Afrique, c'est plein de petits magasins, hein, des magasins encore familiaux, comme il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans en France. Et quand on vend des télés, enfin, quand on met à disposition de ces télés, il faut se faire payer. Hein. Alors que quand on va chez les boulangers, etc., on est à peu près sûr de se faire payer. Et donc, il y a tout un réseau de distribution. Parce qu'encore une fois, parmi les 8 milliards d'individus, la majorité vivent dans ces pays-là. Eh bien, il faut maîtriser le canal de distribution. Il faut pouvoir contrôler son canal de distribution. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, quand je travaillais chez Thomson, et je travaillais sur les usines de Thomson Inde, donc à Madras, très exactement. Et donc, on avait ce problématique où Vivek Badrinath, qui gérait Thomson Inde à cette époque-là, sa problématique numéro un, c'était pas de vendre des produits, hein, c'était de récupérer l'argent. C'était le cash qu'il fallait récupérer. Eh ben, les Chinois, ils sont très bons là-dedans. Ouais. Ils ont aussi cette capacité-là à faire tourner l'argent, à gérer l'argent, et voilà. Et évidemment, quand on maîtrise toute la value chain, on est très flexible.
On voit que c'est beaucoup plus complexe que deux bouts de plastique avec une dalle à l'intérieur.
C'est un marché qui est devenu beaucoup plus sur l'économie que sur la technologie.
C'est ça, absolument.
Et ben voilà, écoutez.
On peut regarder ces magnifiques images de ça. C'était vraiment le chef-d'œuvre de LG.
Ah ouais, ouais, ouais.
Qui était ce téléviseur signature. Ouais, qui rentrait dans un meuble et qui voilà.
Ouais,
qui
si vous êtes avec nous à la télé, c'est un meuble.
Avec une fente, oui.
Voilà, avec une fente, et puis vous appuyez sur votre télécommande, votre télé sort comme ça, comme par magie. Elle se déroule.
C'était un écran très fin.
Incroyable, elle se déroule. Alors, ça fait 10 ans peut-être qu'ils nous ont présenté ce truc-là. Ouais. Et en fait, ils en ont vendu très peu parce que, un, je pense que ça doit être très compliqué à fabriquer, et deux, le prix, c'était 60 000 dollars, je crois,
télé. Je me demande si c'était pas plus, d'ailleurs.
Enfin, voilà, bon, donc c'était.
Mais trouver leur marché dans les bateaux de luxe.
Mais bien sûr.
Les bateaux de luxe, quand tu navigues, ça bouge. Donc, il fallait rentrer ta télé en dehors de ça. C'était compliqué.
Bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pu s'offrir ça dans leur loft au dernier étage à New York, par exemple. Ça peut
ou aux Émirats.
Ou aux Émirats aussi. Dans l'actu, on évoque aussi, les déboires de Google. et son moteur de recherche qui, depuis la Google I.O., eh bien, a un petit concurrent. Alors, c'est toujours un petit concurrent, hein, mais et on va vous raconter l'histoire, c'est assez intéressant. DuckDuckGo, je ne sais pas si vous connaissez DuckDuckGo.
Ouais, DuckDuckGo.
Ben voilà.
C'est mon browser.
Moteur de recherche, browser, moteur de recherche qui prône, en fait, la sécurité des données, la vie privée, parce que, bon, enfin, voilà, il y a tout un discours hein, de DuckDuckGo là-dessus. Eh bien, DuckDuckGo a vu son... Comment dirais-je, la fréquentation de ces services exploser. Pourquoi? Eh bien, parce que Google, lors de la Google I.O., a mis en avant les fonctions IA dans le moteur de recherche de Google. Et il y a plein de gens qui ont dit, non, moi je veux pas d'IA, je retrouve pas mon Google, ça me plaît pas, eh bien, je vais aller voir ailleurs. Et alors, on se dit, bon, c'est quoi? Ça va être quelques personnes? Non. Il y a eu, alors ça a été par vague, hausse moyenne de 18% des installations d'applications DuckDuckGo aux États-Unis entre le 20 et 25, et c'est même monté à 30% le 25 mai. Et même sur iOS, donc sur les téléphones Apple, eh bien, il y a eu une explosion de téléchargement sur l'App Store de l'appli DuckDuckGo. C'est quand même étonnant. Est-ce que Google a pu avoir arrivé ce truc-là, Fred? C'est rigolo, cette histoire.
Oui, ben on assiste peut-être à une certaine fatigue hein, de l'IA cognitive. Voilà, on
veut, et puis surtout, tu changes pas comme
on,
ça.
On veut retrouver la, on veut
un,
retrouver
un
la
service
main.
Que tu utilises depuis 20 ans, quoi.
C'est vrai que nous, on est un petit peu biaisé parce que nous, oui. Dès que ChatGPT est arrivé, Google Gemini, tout ça, on s'est jeté dessus. Puis peu à peu, comme ça a commencé à bien marcher, il y avait de moins en moins d'hallucinations. C'est devenu un peu notre moteur de recherche. Mais pour,
oui, mais pour nous, mais pour la plupart des gens, c'est
voilà,
toujours
pour
Google.
Pour la plupart des gens, ça reste Google. Et c'est vrai que Google, et notamment la Google I.O., alors nous, ça nous paraît formidable. L'IA nous aide, nous guide et tout ça. Mais non, il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent, toi tu l'utilises, tu pourras le dire, qui préfèrent avoir la liste de sites, pouvoir avoir ce cheminement. Voilà, on préfère l'avoir pour soi que pour... Que le laisser à l'IA le faire.
Alors, par rapport à ça, Frédéric, deux choses. D'abord, moi, j'utilise DuckDuckGo depuis un certain nombre d'années. Je voulais juste dire aux téléspectateurs et aux auditeurs, c'est super simple, vous l'installez, c'est super simple. Mais c'est vraiment super simple, quoi. Je veux dire, on l'installe de son App Shop et puis on roule. Et ça donne des résultats très, très similaires. On n'est pas dépaysé par rapport à Google.
Oui, voilà, sur l'utilisation. Ça marche bien, c'est ça.
Il y a beaucoup moins de liens sponsorisés. OK? Et on règle toute sa vie privée. Donc on peut dire non, je veux pas de mémoire. C'est-à-dire on peut dire je vis dans ma bulle ou j'ouvre tout. Et c'est super simple et ça marche super bien. Donc ça déjà je trouve que c'est voilà, je voulais juste dire ça. Deuxième chose, je pense que Google aurait dû embaucher Frédéric Simotel, parce que Frédéric Simotel, il y a déjà quelques années de ça.
Ne donne pas d'idée à Google qui nous pique pas notre Fredo.
Non, je sais ce qu'il veut dire.
S'il te plaît.
Bon, à 17 ans, je veux dire, et je me souviens toujours de Frédéric qui m'a appris ça sur cette émission, disant il y a le moteur de search et le moteur de réponse. Ok. Et ce sont deux choses différentes, ce sont deux usages différents. Il y a le couteau et la fourchette. Bon, ils ont voulu mélanger les deux. Ils ont voulu faire une espèce de couteau suisse. Eh ben, il y a des gens, ils préfèrent encore avoir le couteau et la fourchette. Et moi, je fais partie des gens qui préfèrent avoir un moteur de search et un moteur de. Voilà. Et pourquoi? Parce que je suis un vieux de la vieille, et moi j'ai appris un truc, analyse, thèse, antithèse, synthèse. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur de réponse? On va directement à la synthèse. Hein, Nvidia, ChatGPT, Anthropic, il vous donne la synthèse, il vous donne une réponse synthétique. Mais moi, le moteur de search, il me permet de faire l'analyse. Donc quand j'ai l'analyse, après, je fais ma thèse, je vais voir des sites contradictoires, je fais mon antithèse, puis je me fais ma synthèse, que je peux comparer, avec celle des moteurs de réponse,
ce qu'on fait beaucoup.
Ce que beaucoup de gens font. Et je trouve que Google, en disant « c'est moi qui a raison », ne réfléchis pas, prends ma synthèse à moi, et quelque part, oublie de laisser la liberté aux gens de faire leur propre démarche intellectuelle et de recherche. Il s'est trompé. Mm-mm. Il s'est simplement trompé. Et je trouve que c'est sain de voir que le public, il dit tu sais quoi? Moi, si je veux aller à tel endroit, j'ai pas envie d'y
c'est
aller par
patron.
Ton chemin.
C'est moi le patron.
Ouais. Alors, je regarde ta route, je regarde ton chemin, mais chacun sa route, chacun son chemin, comme dit l'autre. Hein. Et moi, je vais passer par le mien, et le tien est intéressant, il m'aide, mais je veux quand même avoir ma liberté.
Ouais.
Et c'est vrai que cette réaction me paraît très saine.
Alors, un porte-parole de Google a dit qu'on pouvait désactiver ça, que c'était pas évidemment voilà, scellé dans le marbre, etc., etc. Mais en fait, voilà, les gens ne s'embêtent même pas à modifier les paramètres, quoi. Quand ils voient que leur interface a changé, ils vont ailleurs. C'est
non, et puis c'est fou, la grosse erreur de Google, enfin, il y a deux choses. D'abord, on ne sait pas s'il n'y a pas d'hallucination dans les réponses, alors que l'avantage de Google, c'est qu'il n'y a pas d'hallucination. Enfin, Google classique, il n'y a pas d'hallucination, il nous donne des sites. Alors que là, s'il nous donne la réponse directement, qu'est-ce qui. Je veux dire, on a un esprit critique qui va s'éveiller automatiquement.
Ouais. On a l'impression que le web est moins ouvert, c'est dit, il nous dirige.
Oui, c'est ça. En plus, quels sont ses biais? Pourquoi est-ce qu'il choisit ça plutôt qu'autre chose, etc. Alors que les algorithmes de recherche, on les connaît. Et puis, il y a une entrave au principe de monétisation des sites web. C'est quand même scandaleux. Il va chercher l'information directement, il ramène les résultats, ce qui évite à l'internaute d'aller visiter les sites et donc de les monétiser. C'est pas très cool pour les sites qui ne vivent que de cette monétisation. Puis, je voudrais faire remarquer une chose, c'est qu'ils ont loupé le coche, Google. Ils auraient dû faire ça en 2024, en 2023 même, à l'époque où Perplexity commençait à sortir des nimbes, parce que vraiment, Perplexity, c'est ce qu'on attendait à l'époque de Google, c'est-à-dire je pose ma question, il me donne les réponses avec les liens qui me permettent de trouver la source de l'information. Voilà. Et là, ils arrivent donc 4 ans trop tard.
Mais en même temps, Google devait réagir, parce que Google aujourd'hui, qui était, on se souvient, hein, c'était l'interface, c'était notre entrée sur. Parfois, il y avait des gens qui disaient, oh, j'ai plus Internet. En fait, ils avaient toujours Internet, puis il y avait juste que Google avait planté. Non, mais on a déjà vu ça. Et peu à peu, ils se sont rendus compte de quoi? Qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent par YouTube, il y a des gens qui rentrent par Reddit, il y a des gens qui rentrent par TikTok. Enfin, le point d'entrée, c'est plus Google. Donc, Google devait réagir. Donc, ils se sont dit, c'est le meilleur moyen, c'est de mettre justement moteur de réponse, moteur de recherche en même temps. Et puis là, on va pulvériser. Ouais, ouais. Mais ils n'ont pas vu ce côté.
Ça perturbe les habitudes des gens.
D'ailleurs, en fait, on enferme les gens.
DuckDuckGo propose un mode avec IA.
Mais on peut désactiver facilement.
Qu'on peut désactiver, c'est qu'il faut vraiment le choisir.
Il faut vraiment le choisir. Et voilà, ouais. C'est ça.
Et moi, il y a une chose qui est importante par rapport à ce que tu viens de dire, et je suis 100% d'accord avec toi. Si on ne fait que des moteurs de réponse, on tue le web.
Bah, c'est clair.
On tue l'Internet.
Ouais. Déjà, les applications ont fait beaucoup de mal.
Les applications ont fait beaucoup de mal. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent, attention, vous avez une responsabilité dans la survie, dans le mode de survie d'Internet. Et l'Internet, c'est quand même une liberté extraordinaire de penser, de réfléchir, d'avoir accès à l'information. Et si on tue ça, et je trouve que la réaction, encore une fois, est très saine des Américains d'Alice et DuckDuckGo, parce que c'est pas anodin ce qui est en train de se passer.
Attention les amis, grosse actu qui vient de tomber. Vous êtes prêts ?
On est prêt.
Là, on tutoie, on va dire, des sommets en termes de valorisation. Anthropic qui vient d'annoncer lever 65 milliards de dollars. C'est tombé il y a quelques minutes. Et frôle donc les 1000 milliards de valorisation. Donc dépasse OpenAI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Anthropic est devant OpenAI en termes de valorisation.
On avait senti venir quand même. Hein.
Ouais, c'est clair.
OpenAI était un peu en difficulté.
Il parlait de 30 milliards. Hein. Au début, c'était 30 milliards.
Mais là, c'est 65 milliards. Là, c'est 65 milliards. Incroyable quand même.
Il y a eu un renversement de tendance d'un seul coup entre les deux boîtes qui est assez phénoménal.
J'apprends la nouvelle en direct. Bon, enfin, comme tout le monde, on est en direct, donc la preuve c'est qu'on est en direct. Ok. Et ça rejoint tout à fait ce qu'on disait au tout départ avec Mistral, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour continuer à grandir, il faut lever de l'argent, c'est-à-dire et donc aller voir se mettre sur le marché, 65 milliards en l'occurrence. Les 65 milliards, qui c'est qui les donne? C'est nous. Soit on les donne parce qu'on les donne directement parce qu'on achète des actions, soit on les donne parce qu'on a des assurances vie, soit on les donne d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que ces entreprises-là, pour grossir, ne sont pas ce qu'on appelle sustainable, c'est-à-dire ne sont pas capables de vivre en autonomie. Elles sont obligées de faire appel au marché. Et donc, le système tel qu'il est fait, il ne peut pas tenir. Donc, on est en train de monter dans des sommes colossales et il ne peut pas tenir. Alors, je faisais une blague sur la bulle de tout à l'heure. C'était peut-être pas forcément très respectueuse, mais je m'en excuse. Il n'y avait pas de vocation de provoquer qui que ce soit, bien entendu. Okay? Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème économique. Et donc, il va falloir que quelqu'un paye. Donc, soit on fait payer par le marché, soit on fait payer par l'utilisateur, et à un moment, on fera payer par les deux.
Alors, je ne sais pas si tu as suivi, Fred, parce qu'on a des infos qui tombent. Anthropic dit avoir signé des accords jusqu'à 5 gigawatts de capacité avec Amazon. 5 gigawatts de TPU. Donc, en fait, ils sont... Et c'est rigolo parce que ça rejoint la stratégie de Mistral, finalement. Mais échelle, je sais pas combien, fois 10.
C'est ce que je voulais dire. Je veux dire, ces investissements-là, on est en train de partir vers une bataille d'infrastructure. On est vraiment parti dans ce domaine-là.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a ces agents qui se démultiplient à longueur. Et ces agents, bah, c'est comme des collaborateurs. Enfin, il va falloir leur donner de la puissance calcul. Il va falloir les héberger. Il va falloir et tout ça. Et là, je pense que là, c'est un gros coup. Alors, ça va être derrière de l'achat de la GPU, de la GTPU, de l'achat. Et on est en train vraiment de basculer vers une bataille d'infrastructures.
C'est
là, on parlait d'un monde du logiciel. On est bien.
D'ailleurs, je pense que tous les auditeurs qui suivent BFM Business depuis au moins 3 ans savent que c'est une bataille d'infrastructures. On en a parlé 1000 fois. Et je crois, pour être tout à fait honnête, que BFM Business ou Tech & Co. a vraiment été les premiers à soulever ce point-là en disant, mais attendez, le LLM, c'est secondaire par rapport à l'infrastructure. Nous sommes dans une bataille d'infrastructures. Et où je suis, moi, absolument étonné et choqué, parce que l'infrastructure, c'est l'État. C'est de la régulation,
c'est ce que tu disais dès le départ, okay, en fait. Il fallait que ce soit une décision de l'État.
Mais bien entendu, et l'État et nos politiques rentrent en campagne en 2027.
C'est ce que fait la Chine, d'ailleurs, non ?
C'est ce que fait la Chine avec ses plans quinquennaux, etc. Nous rentrons en campagne électorale en 2027. Vous avez, vous, entendu quelqu'un qui vous parle du programme politique de la gestion de l'infrastructure et de l'énergie en France ?
Vous avez vu l'audition d'Arthur Mensch ?
Personne.
Vous avez vu l'audition d'Arthur Mensch au Sénat ? Il n'y avait personne.
Donc, soit
et le seul gars qui avait à poser des questions qui étaient lunaires, oui, qui n'avaient rien à voir avec le sujet.
Ouais, on a un problème vraiment de compétences.
Et en fait, il disait, oui, vous rendez compte, vous allez vous installer sur un terrain, mais est-ce que vous avez pensé aux répercussions écologiques, etc.
Mais même, il y a une écologiste qui dit, à un moment, il se trompe dans les chiffres. Voilà, il parle en trillions, en billions, enfin voilà, parce qu'il confondait, mais on avait compris l'esprit.
Bien sûr.
Et elle a dit, regardez, il a essayé de nous avoir, il a parlé de chiffres complètement. Oui. Elle est partie là-dessus, alors que il est hyper clair. Et puis on voit bien un moment, parce que billion en français, en anglais, voilà,
sûr,
c'est pas les mêmes. Et puis il se reprend d'ailleurs, et elle tout de suite elle part sur regardez, il nous cache des choses, il sait pas les vrais. Par contre, le truc a été vu des millions de fois, et ça c'est une bonne chose.
Oui, c'est vrai. Et espérons qu'il y ait un électrochoc de la part du futur présidentiable. Et des équipes qui seront autour de lui pour qu'on prenne vraiment ce sujet à bras le corps. On est prêt à les aider, hein. On est prêt à leur expliquer, sans aucun souci, humblement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Yves.
Bonsoir.
Yves Maître. Merci à Didier Sens.
Merci à toi.
Fred, on se retrouve la semaine prochaine.
Bah oui, encore. Bah on reparlera de ces 65 milliards.
Ne bronze pas trop à Roland Garros ce week-end, s'il te plaît.
Non, je vais en Bretagne. Ah. Je vais bronzer aussi en Bretagne.
On bronze en Bretagne.
Ah, bah oui.
On apprend des trucs.
Il doit habiter à côté d'un data center, à mon avis. Ça chauffe.